Vous écoutez
RMC.
L'éloge de la défaite, messieurs, dames. Et oui, c'est possible d'en parler dans l'after de la défaite qui, pourtant, est source de tous les problèmes pour les supporters, pour les joueurs, pour les entraîneurs. Laurent David Samama est avec nous. Bonsoir.
Enchanté. Bonsoir.
Et bienvenue parmi nous. Donc, c'est un petit bouquin très intéressant. Éloge de la défaite. Ça parle de sport, mais pas que. Ça parle aussi de politique.
Ah oui.
Donc, il faudra que tu nous expliques le concept et après, on ira vers le foot. Évidemment, tu es journaliste ?
Tout à fait.
Peut-être que d'autres bouquins.
Ouais, politique à la base et de plus en plus en sport. Il y a une volonté de mettre des mots sur le foot, beaucoup, qui est une passion depuis longtemps, comme on le fait en Angleterre, en Italie, qui sont des pays où on aime bien raconter le football avec une plume spéciale.
C'est vrai.
Ça se fait assez peu en France. Ça commence. Voilà.
Alors pourquoi ce bouquin ?
Pourquoi ce bouquin ? Alors, ça naît de plusieurs papiers. C'est des choses que je creuse depuis longtemps. La défaite, on vit dans un monde de victoire. Et moi, les losers magnifiques, la défaite qui devient mythique, me plaît bien. C'est un contre-pied à l'époque où on veut gagner, où on veut être dans une
performance. Il y a que la victoire qui compte.
Ouais, c'est ça. J'avais fait un papier pour Le Temps, il y a quelques mois. Daniel m'avait répondu d'ailleurs. C'était suite à ce documentaire, cette série qui avait été diffusée sur Netflix. Je ne sais pas si on peut faire de pub.
Oui.
Sunderland Till I Die, qui montrait la déchéance de ce club de Première Ligue qui jouait... pas les premiers rôles, mais enfin, bon, milieu de classement, fin de classement.
Qui est un club très populaire.
C'est ça, qui a une base de fans assez incroyable, qui est soutenu et qui a un très beau stade aussi d'ailleurs, et qui chute de plus en plus, et on les suit dans le cadre d'un documentaire pour une saison qui doit être celle de la Renaissance.
En fait, t'avais adoré les voir chuter.
C'est
un peu bazo,
c'est fascinant
en fait.
Parce que il y a un petit peu de ça, mais il y a dans la défaite, ce qui est intéressant, et on en reparlera si vous voulez, il y a une odeur du sang qui nous attire un peu tous.
C'est pas faux.
Ouais. C'est ce qu'on aime bien. Alors, moi, je suis un grand fan du PSG, mais enfin, c'est ce pourquoi on le surcommente quand le PSG perd. Il y a une odeur du sang qui nous excite un peu.
Vous parlez de l'odeur du sang, mais dans le documentaire sur Sunderland, on s'attache aussi à ce manager qui voit son club couler.
On n'a pas envie qu'il chute, en fait.
Ouais, on n'a pas envie du tout. On s'attache même, il y a Josh Maja qui joue à Bordeaux, qui est un jeune joueur qu'on découvre.
Et
on a presque envie qu'il sauve son club. On a envie que le manager, que je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est assez classe d'ailleurs, on a vraiment envie qu'il s'en sorte.
En effet,
c'est vrai que c'est une belle histoire parce qu'ils ont fait ce documentaire pour la remonter, comme vous dites, et au final, ils sont descendus en 3e division.
Alors, dans le foot, il est vrai que dans l'histoire. Partons d'abord de l'équipe de France, si vous le voulez bien. Parce qu'après, on parlera de club, mais il est vrai que dans l'histoire de l'équipe de France, il y a quelques défaites fantastiques qui restent en fait des matchs un peu de légende quand on réfléchit.
Ouais.
Bon. Et évidemment, au sommet de cette histoire-là, il y a le France RFA de 82. Ouais. Bon, enfin, il y a aussi le France-Bulgarie. Enfin, il y a une liste quand même qui est assez longue, même si on remonte plus loin. Et c'est vrai que finalement, ces défaites-là... moi, avec le temps, plus le temps passe, plus elles deviennent des matchs de légende, et t'en oublies presque que c'est des défaites.
Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a presque plus écrit de livres et plus fait de films ou de fictions, de pièces de théâtre sur cette défaite-là. Je pense à Séville qui donne lieu à des livres qui sont parfois très beaux, parce qu'il y a quelque chose qui tient du drame, de la pièce grecque antique. Il y a un truc un petit peu comme ça qui se passe avec Séville. Ça devient aussi quelque chose qui est plébiscité par les esthètes aussi. Bon voilà, je pense que dans cette émission-là, on parle à des vrais fans de foot, des gens qui connaissent le ballon. Quand on leur demande quelles équipes de France ils ont aimées, bon, celle de Séville, elle est peut-être là parce que ceux qui chutent à Séville, c'est des joueurs qui deviennent des demi-dieux, qui ont expérimenté quelque chose qui tient du drame, de la chute.
C'est le scénario aussi de ce match qui a fait.
Après,
qui a fait tout ça.
En fait, l'éloge de la défaite, c'est ça dépend quelle défaite.
Oui.
Parce que si t'es un loser toute ta vie. Au final, on va pas trop parler de toi. C'est plus ton histoire, quoi. Est-ce que ta défaite tu la trouves romanesque parce qu'elle est suivie d'une victoire 4 ans après, ce qui est le cas, du France-Bulgarie dont tu parlais. Le France RFA reste dans l'histoire, cette défaite de légende dont on aime beaucoup parler, qui a donné lieu à un tas d'œuvres. C'est vrai, tu as raison. Mais parce que la France n'est pas du tout attendue à ce niveau-là. Et il y a toujours un contexte. Qui sublime la défaite quand elle doit l'être. Quand elle est juste ridicule, c'est difficile de dire ridicule, mais si tu prends celle du PSG contre le Barça, elle devient difficilement romanesque. Elle tourne au ridicule. parce que t'es pas attendu à ce niveau-là de performance, parce qu'on te tape sur la tête et tu ne réagis pas.
C'est ça.
Parce que
tu te relèves pas.
Pour parler vulgairement, parce que tu te chies dessus, tu n'affrontes pas l'événement. L'équipe de France de 82, on l'attend pas aussi forte. Personne pense qu'elle va aller en demi-finale. Personne pense en plus qu'elle peut mener la vie dure à ces Allemands qui apparaissent comme des monstres par rapport à nous. Et donc, ça se transforme en quelque chose d'héroïque. En fait, moi, je trouve que les défaites et les victoires, c'est toujours une affaire de contexte et d'histoire qui vont avec. Il y a même des victoires qui, finalement, parfois, sont moins belles que des défaites. De la façon dont l'histoire est racontée. Qu'est-ce qui va avec? Quels sont les hommes qui sont dans cette histoire-là? C'est ça qui est intéressant.
Mais une défaite, là, tu compares, ce qui est incomparable, Daniel, tu compares la défaite du Paris Saint-Germain contre Barcelone, donc ils en prennent 6. C'est ça, 6-1? À une défaite à Séville. Donc
non, je disais dans
pas toutes les défaites
sont
belles
à l'intérieur des défaites.
Ouais, non mais
des fois il y a des choses fortes à trouver, des fois il y a des choses à dire.
Juste pour finir ce que je disais, c'est que quand tu perds, quand t'as une équipe qui perd par plus de 5 buts d'écart, comment tu peux trouver
parce que c'est l'humiliation, c'est pas
l'humiliation. Là par contre tu peux rien y trouver. Non, c'est quelque chose la victoire est exceptionnelle du côté de Barcelone, OK, et ça restera dans l'histoire comme
pour Neymar,
comme pour le Paris Saint-Germain, un point noir à vie, quoi. C'est une humiliation.
Moi j'ai une question sur justement ces défaites, je suis d'accord avec Jérôme, celle du PSG n'est pas forcément le bon exemple parce que il y a de large écart, mais il y a une défaite. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de la défaite de l'équipe de France en finale de l'Euro face au Portugal à domicile? Parce que là c'est un petit écart, mais elle est pas vraiment magnifique, celle-là.
Elle est pas magnifique, c'est intéressant parce que c'est une équipe de France qui s'illustre moins par le jeu, et c'est une équipe de France, en fait ça fait partie des défaites dont on se rappelle parce que un joueur a failli. Alors dans ce cas-là, c'est pas grave. Enfin, c'est Gignac, qui rate
l'occasion.
On se rappelle que Ronaldo ne joue pas la finale quasiment.
C'est ça. Mais on se rappelle aussi de Gignac. Et ce que ça nous montre bien, c'est que dans toutes ces défaites-là, qui marquent parce que l'instant est important, parce que on est à un stade de la compétition qui fait que la France entière est devant la télé. Ça nous marque parce que on a une sorte de bouc émissaire. Bon là c'est Gignac qui marque pas. C'était Ginola qui est un criminel.
C'est vrai qu'il y a toujours ça.
Gignac a pas été bouc émissaire.
Non, pas du tout.
On a quasiment oublié
que. Mais bouc émissaire dans l'autre sens avec l'histoire de la main avec l'OM par exemple. C'est vrai qu'il y a souvent bouc émissaire.
Si Gignac marque ce but,
Schumacher a été le bouc émissaire de France RFA.
Peut-être ça change son destin, sa carrière, ça sans aucun doute.
Mais ça que la défaite.
Bon là c'est vite oublié.
C'est ce que tu as le fait que pour un homme, parfois, sa vie peut être changée par une victoire et par une défaite.
Alors, c'est le cas en politique. On lit dans le livre ces deux grands théâtres que sont le sport et la politique.
Jospin et Harald Schumacher.
Il y a quelque chose un peu comme ça. Juppé aussi, qui était promis le plus doué dans sa génération.
Dans le livre que Emmanuel Macron n'a pas connu la défaite.
Non, c'est ça.
Et c'est ça qui a du mal avec
un parallèle entre Macron et le PSG.
Parce que je trouve que alors c'est le PSG version qatarienne. Je trouve que c'est deux logiques où on veut gagner vite et fort, très très vite.
C'est vrai.
Macron gagne, il fait un coup assez incroyable. Là, je parle pas de politique. On est un petit peu au-delà de la considération de parti. Macron, quand il gagne, il fait une campagne un petit peu éclair. Il fait un coup parce qu'il change la donne, il change le jeu. Ce que Nasser et autres font quand ils viennent et qu'ils reprennent les rênes du PSG avec de l'argent, des idées et un but affirmé qui est de gagner très vite.
Et juste dans votre cas, donc le fair play financier, c'est les syndicats ou c'est comment?
Ça peut être un peu ça, mais en tout cas, même si on se prononce pas sur cette question-là, on peut en discuter. Hein. Mais dans ce PSG-là, il y a une non-expérience de la défaite et il y a une volonté de gagner qui fait que quand on gagne beaucoup, très vite et très fort, on s'imagine qu'on peut toujours gagner seul, sans consulter les corps intermédiaires avec
Macron. En matière de défaite, ils commencent à être un peu rodés maintenant.
C'est ça. Sauf que ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ne tirent pas les leçons de leur défaite et après,
voilà, oui.
la, la, enfin, la remontada et les victoires, les défaites lourdes et graves, ce qu'elles peuvent nous apprendre, c'est à faire un ménage ou à faire un petit peu autrement. On ne change pas une équipe qui gagne, on peut changer une équipe qui perd. Assez étrangement avec ce PSG-là, oui, on a changé assez peu de choses.
Il tire
assez peu de choses. Je pense que ça va se passer au mercato là, d'après.
Oui, mais on a le sentiment que c'est toujours un peu trop tard.
C'est ça.
Quand ils tirent les leçons.
Ouais, c'est ça.
S'ils en tirent, quoi.
Alors, il y a un truc, tu parlais de l'odeur du sang tout à l'heure. Nous, il y a un truc qu'on constate dans l'after depuis la création de cette émission, c'est que une équipe française, bon, je prends l'exemple des grands matchs de Coupe d'Europe ou de matchs de l'équipe de France, et Max, notre standardiste qui verra tout à l'heure, le premier à pouvoir en témoigner, quand l'équipe française perd, tu as deux fois plus de coups de fil au 32-16, deux fois plus de mails, deux fois plus de messages que quand l'équipe française gagne.
Ouais. Mais la défaite, c'est une passion française. C'est très intéressant.
La défaite, c'est une passion française. Mince, on est mal barré.
Je parlais avec des Américains qui rebondissaient juste sur le titre de ce livre-là et qui me disaient mais aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas écrire un livre qui a un tel titre parce que même si on considère la défaite, qu'on l'apprend, on essaie de s'en servir pour en tirer les leçons. Ça se vend pas et c'est pas possible, ça n'intéresse personne.
Et nous, on est des romantiques, en fait.
Oui, c'est ça. On a un côté, c'est le fond, le vieux fond littéraire, la vieille Europe qui aime ça, qui aime les drames, qui aime. Je voyais Liverpool, Naples, qui sont des clubs qui ont, pour parler d'autre chose que du PSG, des histoires longues avec des cycles. Ce que nous enseigne la défaite, on peut en parler d'ailleurs. C'est ces cycles-là. Est-ce que dans le monde dans lequel on vit, on a encore le droit, le temps d'avoir des cycles? Qui est un grand truc des amateurs de foot. Hein. Le Milan AC a fonctionné beaucoup comme ça. Il y avait des équipes qui faisaient 5 ou 6 ans, qui arrivaient à maturité, qui gagnaient tout et qui ensuite, voilà.
Mais alors revenons sur la réaction populaire, en fait, parce que c'est nous, on la vit dans l'after. C'est vrai que c'est quand même assez, assez étonnant. Et alors, on peut même aller un peu plus loin. Je ne sais pas si Daniel sera d'accord avec moi, mais tu as même certaines spécificités. C'est-à-dire que le Parisien, le supporter parisien dans la défaite, il viendra plus s'exprimer que le supporter marseillais, par exemple. Le supporter marseillais va plus s'exprimer dans la victoire.
Bien sûr. Ah ouais. Parce que Marseille a un culte de la victoire qui est à s'installer. C'est donc à jamais les premiers. Il y a quelque chose de cette histoire-là, de cet ordre-là qui
alors que lui viendra râler quand on parle de Jean-Michel Aulas.
Oui. Lyon aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est ça.
À la base, c'est Jean-Michel Aulas fait partie de la génération à la fin des années 80 des présidents qui se prenaient pour Buddy Fox et Gordon Gekko dans Wall Street. Quoi. C'est toute la bande des jeunes présidents.
Bon, il a réussi, Jean-Michel Aulas.
Mais ça imprègne le club.
Je dis dans quoi il s'inscrivait au départ. C'était les winners. C'était en gros ceux qui regardaient Ambition à la télé. Présenté par Bernard Tapie, qui était un peu le boss des
le boss des winners
de l'époque. Et puis il était lui, voilà, il y avait Max Bouillet,
tu veux dire qu'ils étaient tous habillés en rouge dans les tribunes, les winners.
Il y avait Gervais Martel, il y avait tous ces nouveaux présidents.
Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre aussi l'aspect psy qui est de plus en plus intéressant dans le foot, et peut-être trop maintenant d'ailleurs, qui est illustré par Klopp, qui est sur le plan technique, un coach intéressant. Hein. Je suis pas là pour dire que Klopp n'a aucune qualité, mais enfin, Klopp, c'est pas Ancelotti, c'est pas Lippi.
Un manager, quoi.
C'est ça. C'est des meneurs d'hommes, en fait, qui arrivent à hisser leur groupe et leurs joueurs à faire des choses.
J'avais un entraîneur portugais qui avait, j'y ai pensé quand j'ai lu votre livre, lui disait toujours, avant chaque match quasiment, dans sa causerie, il disait, bon, il le disait en portugais, mais je vous le fais en français, le football, c'est simple. C'est un sport, il y a trois résultats possibles. On peut gagner, perdre ou faire match nul. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il finissait par dire, nous on peut faire qu'une seule chose, c'est tout donner sur le terrain.
C'est ça.
Et avoir la conscience tranquille. Ouais. Une fois qu'on a tout donné, et c'est ce que vous dites à un moment, dans la vie c'est pareil, voilà, on peut tomber, mais si on a tout fait pour essayer de gagner le match, pour voilà, si on a couru, si on a fait les kilomètres, si on a fait les efforts, si on a respecté le plan, on peut tomber contre un adversaire, tomber contre un penalty et perdre un match ou faire un match nul. Mais je pense que ça c'est vraiment important. Et si un jour je suis entraîneur, je garderai cette formule.
Alors on va continuer la discussion. Le 32-16 est ouvert, hein, si vous voulez. Il y a beaucoup de monde qui veut parler, notamment de la finale 2006 avec le coup de boule de Zidane. Voilà une autre défaite avec un bouc émissaire qui à l'époque était un héros. Parce que ça c'est un cas particulier quand même. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, il faut qu'on fasse un point sur l'Europa League et les matchs qui viennent de, ou qui sont en train de se terminer, Lucas Vinois.
Exactement. Victoire de United 5-0 face à Bruges. Qualification de United. Victoire de l'Inter 2-1 face à Logogorex. Victoire et qualification donc de l'Inter. Séville, Cluj 0-0. Qualification de Séville. Copenhague est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse du Celtic. Qualification de Copenhague 3 partout entre Benfica et le Shakhtar. Qualification du Shakhtar.
Ça, c'est un match de dingue, hein. Le Shakhtar, là, ils étaient menés, ils sont revenus.
Ils sont revenus. Ajax Retafe 2-1 pour les joueurs de l'Ajax, mais il faudra marquer 2 buts et il reste, il n'y a plus rien dans le temps additionnel. On est à 7 minutes 50 dans le temps additionnel au lieu de 6 minutes. Et prolongation entre Arsenal et l'Olympiakos, puisque l'Olympiakos mène 1-0 sur la pelouse des Gunners.
Prolongation Arsenal-Olympiakos, c'est quelque chose.
Et le Celtic est éliminé, hein.
En effet, le Celtic est éliminé après sa défaite 3-1 à domicile face à Copenhague.
Voilà, on aurait pu avoir un Rangers Celtic en 8e d'Europa League, on l'aura pas puisque c'est voilà. Et l'Ajax est éliminé à l'instant, mon petit Kevin.
Et ouais.
Franchement, c'est pas glorieux.
Non, c'est pas glorieux cette année. Perdu trop d'éléments là, c'était difficile de se renouveler. Hein, le constant, c'est le cycle,
ouais, c'est ça, ouais.
Qui se termine.